Merci. La prédication de ce matin s'inscrit dans une série de messages qu'on a souhaité faire et qui nous permet de voir l'ensemble de la seconde lettre de Paul à l'église de Thessalonique. Comme vous le voyez, notre texte est au second chapitre de cette seconde lettre, à partir du verset 11. Dans ce chapitre, je laisse de côté l'explication de la fin des temps qui se trouve au début du chapitre. Une prédication était prévue sur cette partie, sur les 12 premiers versets, mais l'arrêt maladie d'Éric a un petit peu changé les plans. Du coup, j'inclus les deux derniers versets de cette première partie dans la mienne, à savoir qu'on commencera depuis le verset 11, et ça devrait nous aider, je l'espère, à la bonne compréhension de cette seconde partie. Lisons donc 2 Thessaloniciens 2, et je commence au verset 11. Donc c'est Paul qui parle. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au mal. Mais nous, nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frère, vous que le Seigneur aime. En effet, Dieu vous a choisi pour que vous soyez les premiers à être sauvés par l'action de l'Esprit qui vous a purifié et par le moyen de votre foi en la vérité. C'est à cela que Dieu nous a appelés, vous a appelés, par la bonne nouvelle que nous vous avons annoncée. Dieu vous a appelés pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Demeurez donc ferme, frère, et attachez-vous aux enseignements que nous vous avons transmis, soit de vive voix, soit par nos lettres. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu, notre Père, nous ont témoigné tant d'amour et par grâce nous ont donné une source éternelle de réconfort et une bonne espérance. Qu'il vous remplisse de courage et vous accorde la force de pratiquer toujours le bien en actes et en parole. Je priais. Seigneur, tu nous mets devant un texte qui ne nous parle peut-être pas au premier abord, qui était destiné à cette Église, dans un contexte particulier. Permets-nous par ton esprit de comprendre de quoi il s'agissait et de nous l'approprier, de la faire nôtre et qu'elle nous parle encore aujourd'hui. Amen. Donc, je vous propose de commencer en posant le contexte de la lettre. C'est important. Ensuite, nous verrons le rôle de Dieu dans le fossé qui existait et qui perdure actuellement entre chrétiens et non-chrétiens. Et finalement, en réponse à ce constat, Paul nous encourage à tenir bon. Cette lettre ne déroge pas donc à la règle qui dit qu'un texte s'analyse dans son contexte. Et ce dernier nous est donné, non pas dans la lettre, mais dans le livre des Actes, au chapitre 17. Et je vous retranscris ce qui est dit dans ce chapitre. Paul et Silas, durant leur périple missionnaire, arrivèrent dans la ville grecque de Thessalonique, où était présente une communauté juive suffisamment importante pour qu'une synagogue soit présente. Paul alla dans celle-ci pendant 3 semaines, pendant 3 sabbats. Pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Quelques Juifs, et ainsi qu'un grand nombre de païens judaïsants, crurent. Du coup, les autres Juifs, ceux qui ne crurent pas, étaient clairement jaloux de voir ces conversions. Ils recherchèrent Paul et Silas pour les traduire devant des juges, mais comme des chrétiens les avaient cachés, ils s'en prirent à un certain Jason et à d'autres chrétiens qu'ils emmenèrent devant la justice locale en criant « Ces individus ont mis le monde entier sans dessus-dessous, et maintenant ils sont ici. Jason les a reçus chez lui, ils agissent tous contre les écrits de César, édits de César, pardon, car ils prétendent qu'il y a un autre roi nommé Jésus. » Les juges et la foule crurent tout cela et ordonnèrent aux chrétiens de payer une caution avant d'être lâchés. Du reste, la nuit qui suivit ce procès, si on peut appeler ça un procès, Paul et Silas s'enfuirent de la ville. Voici pour le contexte de l'église de Thessalonique. Donc, nous avons là-bas des personnes récemment converties au christianisme qui se retrouvent persécutées pour leur foi par l'institution juive locale, avec en plus le support, nous est-il dit, de la foule et de la justice. Les enseignants que sont Paul et Silas viennent de créer une église et après 3 semaines doivent partir en laissant ce groupe de jeunes croyants seul face à la pression des autorités religieuses et juridiques. Ayant bien en tête le contexte dans lequel sont les Thessaloniciens, Paul leur parle donc de persécution et de fermeté dans la foi. Alors, il en profite aussi pour préciser un point de théologie sur la fin des temps, mais c'est justement ces premiers versets du chapitre 2 que nous n'étudierons pas ce matin. Regardons donc cette lettre et voyons le rôle de Dieu dans le fossé entre chrétiens et non-chrétiens. Je vous disais à l'instant que nous témoignons dans notre entourage... J'ai fait des changements dans mon texte et ça ne colle pas. Je vais passer à la suite. Donc, avec un message aussi merveilleux que l'amour de Dieu et de son prochain, pourquoi est-ce que la bonne nouvelle n'est pas mieux reçue par notre auditoire quand nous avons à être croyants ? On ne parle pourtant ni d'argent, ni de politique, mais d'amour, un thème qui est plutôt assez en vogue dans notre société. Alors pourquoi est-ce que c'est aussi mal compris, aussi mal reçu ? Dans notre texte, les versets 11 et 12 sont en opposition avec les versets 13 et 14. D'un côté, dans les temps qui précèdent le retour de Christ, les temps qui précèdent le retour de Christ, c'est un peu long, hein, on ne sait pas trop. Paul précise que Dieu envoie une puissance d'égarement envers ceux qui ne croient pas en Christ afin de les condamner. Et d'un autre côté, Dieu a appelé ceux qui croient à avoir part à la gloire de Jésus-Christ. Cette opposition est manifeste dans le fait que l'action de Dieu a des effets réciproquement opposés pour les croyants et pour les incroyants. Ces versets 11 et 12 m'ont troublé, vraiment, lorsque je préparais ce message. Il est effectivement indiqué que, et ça dans toutes les traductions que j'ai pu regarder, si ça se trouve c'est la mienne qui a une erreur, je vais prendre un autre mot, peut-être que je vais trouver quelque chose d'autre qui pourrait plus convenir à ce que j'ai envie de croire, mais non, pas du tout. Et donc il est indiqué que Dieu envoie une puissance d'égarement pour que, au final, cela condamne les non-croyants. Dieu voudrait-il du mal aux hommes qui ne croient pas ? Le verbe « envoyer » étant bien utilisé au présent, il serait malhonnête de penser que Paul ne parle que de choses qui doivent se passer à la fin des temps. Le verset 7 nous éclaire un peu plus sur ce qui est en jeu. Il est dit « car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre ». Satan est loin d'être inactif dans le temps présent. Et son action est permise par l'Éternel Dieu, maître de toutes choses. Et oui, oubliez les images hollywoodiennes du combat entre le bien et le mal. Satan, en tant que créature de l'Éternel, agit effectivement sous son contrôle. En cela, Paul nous dit que Dieu envoie une puissance vers les non-croyants pour les condamner. Paul prévient aussi l'église de Thessalonique que même si cette puissance est actuellement retenue, les persécutions vont perdurer et s'intensifier quand Dieu l'aura décidé. Ainsi, nous comprenons quelques siècles plus tard que le fossé entre le croyant et l'incroyant n'a de cesse de se creuser de plus en plus. Même si en ça la volonté de Dieu peut nous paraître mystérieuse au premier abord, Dieu est bien le maître d'œuvre de l'excavation de ce fossé. l'usage des deux verbes d'action, envoyer et agir, ne peuvent nous laisser penser que Dieu est passif dans cette affaire. Si les autorités religieuses juives persécutent les membres de cette jeune église de Thessalonique, Satan est derrière cela et il agit par autorisation divine. En réponse à cette persécution, l'apôtre rappelle que le Seigneur agit aussi envers les croyants. Il les a choisis, il les a appelés. Ce sont les deux verbes, encore une fois, utilisés pour décrire cette action de Dieu. Ces deux verbes votent en faveur d'une action consciente de l'Éternel envers les croyants. Ces derniers ont été appelés afin d'avoir part à la gloire de Jésus-Christ, vainqueur de la mort par sa résurrection. Cette promesse pour le temps présent et pour l'éternité a probablement encouragé cette jeune église dans les difficultés qu'elle traversait. S'il est vrai que les croyants ont été appelés par Dieu, il n'en reste pas moins pour ceux qui le recherchent de pouvoir répondre. Dieu a fait sa partie. À vous qui peut-être le recherchez, la question se pose donc, est-ce que vous êtes prêts à répondre à cet appel ? Cette double action de Dieu pour affermir l'un dans le mensonge et l'autre dans la vérité nous rappelle son œuvre en Égypte pour faire sortir son peuple de l'esclavage. Souvenez-vous des 10 plaies annoncées et infligées au pays et au peuple présent en Égypte. À chaque plaie, à chaque annonce d'une plaie, devant l'incompréhension même de ses conseillers, le pharaon tenait tête à Dieu, enfin à Moïse, mais à Dieu derrière. N'était-il pas inscrit, mentionné que Dieu endurcissait le cœur de Pharaon ? Je crois que le Seigneur a souhaité faire les choses ainsi afin qu'il soit explicite pour tous que la sortie d'Égypte de son peuple était bien une action miraculeuse et magistrale orchestrée par l'Éternel. D'un côté, il égarait la sagesse de Pharaon, d'un autre côté, il ouvrait la mer en deux pour laisser sortir son peuple. En travaillant sur les deux tableaux, son œuvre de salut pour son peuple n'en était que plus éclatante et glorieuse. Les récits des plaies d'Égypte avant la fuite du peuple est une illustration parlante de ce qui se joue dans l'Église primitive et peut-être même encore aujourd'hui. Alors, toute comparaison ayant ses limites, je me dois de rappeler que nous ne sommes plus esclaves, et ce, depuis que Jésus-Christ a offert sa vie afin que nous soyons libérés du mal et du péché. Mais par deux fois, Dieu s'est choisi un peuple. En Égypte, le peuple hébreu, puis le peuple chrétien, depuis Jérusalem, en passant par Thessalonique, et puis quelques siècles plus tard, jusqu'à nous à Clermont-Ferrand. Dieu sait très bien que le dialogue entre le croyant et l'incroyant est difficile aujourd'hui. Et ça parce que, en effet, si le sacrifice de Christ à la croix permet à Dieu d'accorder le salut par la foi à l'un, ce même sacrifice condamne celui qui ne croit pas. Il y a bien deux camps, deux positions. Si vous vous sentez persécuté, incompris pour votre foi, comprenez que le Seigneur est bien au courant de cette situation. Il me semble que la prière est votre meilleure arme, notre meilleure arme dans ce cas. À aucun moment dans l'Ancien Testament, il est écrit que les persécutions cesseront. Là, vous pouvez chercher, je pense que ça y est pas. Jésus a même prévenu ses disciples qu'elles font partie du lot du chrétien. Ce n'est donc pas anormal d'être persécuté pour sa foi. Certaines violences contre les chrétiens sont visibles, mais d'autres sont plus discrètes. À Thessalonique, la pression judiciaire qui pèse sur les croyants fait partie de cette persécution discrète. Aujourd'hui, je crois que, dans une certaine forme, le désintérêt, voire le rejet par l'État et par la société de tout ce qui est relatif à la foi, peut avoir l'effet escompté de la persécution. Je ne dis pas que c'est de la persécution, mais je dis que ça a le même effet. Il m'est venu à l'esprit ce texte du livre des Actes au chapitre 5 où, je ne sais pas si vous vous souvenez, le grand conseil juif à Jérusalem avait arrêté des apôtres, puis après une sage proposition d'un des conseillers avait décidé finalement de les relâcher, mais en leur défendant formellement de ne plus parler de ce Jésus. Alors, au-delà de l'acquittement miraculeux des accusés, je porte à votre attention ce que la partie adverse leur avait demandé en compensation. Ne parlez pas de ce Jésus. Si nous en venons à croire qu'il est malvenu de parler de Christ autour de nous, parmi nos amis, parmi nos collègues, notre famille, peut-être pouvons-nous en déduire que nous subissons des pressions de la part de la société, que nous ne sommes peut-être pas aussi libres que nous le pensons dans notre témoignage. La persécution n'est qu'un moyen pour atteindre un but, faire taire ceux qui parlent de cette foi qui dérange. La pression sociale, les craintes peuvent atteindre le même but. Charge à chacun de comprendre comment le contexte dans lequel il vit l'empêche ou le décourage de parler de Christ. L'indifférence de nos contemporains à la foi ne va pas aller en s'améliorant. Enfin, c'est ce qui est écrit en tout cas. Le fossé se creuse et il faut faire avec. Justement, dans la suite de notre texte, Paul encourage son auditoire à tenir bon. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite en dernier point de ce message. Le Seigneur l'a annoncé, à la fin des temps, chacun sera jugé selon sa foi. D'ici là, en attendant ça, bien que nous, chrétiens, ayons avec nous la promesse de sortir vainqueurs du jugement, nous devons bien vivre au quotidien dans un monde qui semble avancer à l'inverse de ce que la Bible enseigne. Du coup, vu la proportion de chrétiens dans la population française, nous sommes de ceux qui avançons à contre-courant de la société qui nous entoure. Quelle réponse pratique la Bible nous donne-t-elle pour vivre ça au quotidien ? Un des buts de la lettre aux Thessaloniciens est de corriger un mauvais enseignement qui était en vogue dans cette église. Au regard des persécutions dont ils étaient victimes, les croyants pensaient le retour de Christ imminent et auraient choisi une vie d'oisiveté en attendant un monde meilleur avec Christ. Pourquoi pas, si c'était demain seulement. Mais aujourd'hui, après deux millénaires d'attente, nous avons appris à relativiser le mot « bientôt » quand Jésus a promis qu'il reviendrait bientôt. Il n'en était, je pense, pas de même pour les croyants grecs de notre texte. En réponse à ce mauvais enseignement et aux persécutions qu'ils reçoivent pour leur foi, Paul les encourage à s'accrocher aux enseignements qu'il a apporté dans sa précédente lettre, donc dans 1 Thessaloniciens, ou oralement lors de sa venue, acte 17. Les encouragements sont tenir ferme, s'attacher aux enseignements, l'espérance de la vie chrétienne, le courage et la force de pratiquer le bien par les actes et par les paroles. Et on retrouve tout ça dans trois versets, du verset 15 au verset 17 de notre chapitre. Comme je le disais précédemment, dans la mise en contexte de cette lettre, Paul écrit à un groupe de fidèles qui est particulièrement jeune dans leur foi et qui, en plus, est mis sous pression par les Juifs locaux. Alors, il leur donne un encouragement à trois niveaux. Tout d'abord, c'est une réponse pratique. Les croyants doivent s'accrocher à la vérité, ne pas se laisser égarer par de faux enseignements qui viendraient les fragiliser dans leur foi. La référence à ce moment-là doit être l'enseignement des apôtres, et l'enseignement, celui de Paul, qu'ils ont donné. S'accrocher à la vérité, ce n'est pas forcément chose facile. Là, sur le papier, oui, dans la réalité, je pense que c'est plus compliqué. Imaginez-vous à la place de ces fidèles qui reçoivent la lettre de Paul et ils reçoivent cette lettre et alors qui recherchent une solution aux persécutions auxquelles ils font face, lisent dans ce courrier de l'apôtre que les persécutions sont normales et que ça va continuer. Il n'est peut-être pas si anormal, du coup, que certains voulaient croire en un retour de Christ imminent afin que tous les problèmes s'arrête. Dans la souffrance, dans la difficulté, en tout cas, qui n'a jamais prié Dieu que, considérant qu'il avait déjà eu son lot de galères, il était temps que le Seigneur mette une fin aux difficultés par une issue favorable, si c'était possible. Cependant, ne serait-ce pas vouloir croire à une espèce de vérité arrangée, une vérité qui nous plaît, en tout cas, que de faire une telle prière déjà bien orientée. Le Seigneur fait les choses à sa manière et selon son timing. Voilà une vérité qui ne nous arrange pas, quand les difficultés s'accumulent et continuent. La Bible nous enseigne que le Seigneur ne nous abandonnera pas dans ces difficultés et que nous devons nous en remettre à lui, quelle que soit sa volonté pour les événements que nous vivons. Ne vivons pas comme les personnes autour de nous en nous accrochant à cet espoir un peu fou que demain ça ira mieux. Attachons-nous à la grâce, la bonté et la sagesse de Dieu à la place. Le second niveau, d'encouragement de Paul est de regarder au loin, d'espérer dans la vie éternelle. Quoi de plus réconfortant que de penser à un monde en paix, à un monde sans péché, alors qu'on est actuellement bousculé et maltraité. Personnellement, j'ai pas hâte de mourir, mais j'ai hâte de découvrir à quoi ressemble une société sans le péché. Plus de mensonges, plus de mauvaises intentions, plus de suspicions, plus d'injustices. Et plein d'autres choses qu'il n'y aura plus. Même si on pourrait qualifier aujourd'hui, je pense, ce monde un peu bisounours, je crois que c'est réellement ce qui nous attend. Bible en main, il n'est pas naïf de croire dans un monde meilleur pour demain, à condition d'attendre le retour de Christ pour ça. Et à l'instar de Paul, je vous le dis à vous qui vivez actuellement des difficultés, espérez dans la vie éternelle qui nous attend. Imaginez-la. Projetez-vous dans la nouvelle création telle que Jésus et les prophètes l'ont décrit. Le dernier et troisième niveau d'encouragement que Paul donne est d'agir en exemple de Christ malgré les difficultés du quotidien. Il ne le dit pas exactement comme ça, je rallonge un peu. Il est à noter que Paul ne demande pas aux Thessaloniciens de rechercher en eux le courage d'être de bons chrétiens. Il prie par contre le Père et le Fils afin qu'ils leur donnent le courage nécessaire. Ça peut être subtil, mais la force ne vient pas forcément de nous à l'intérieur. Nous sommes, par l'action du Saint-Esprit en nous, témoins de Jésus-Christ, annonciateur des promesses de l'Éternel. Christ encourageait ses disciples à rendre le bien pour le mal. Et cette pensée-là, elle est clairement un contre-courant de notre société. En faisant ça, en ayant le courage d'aller dans cette voie, je suis sûr que cela sera vu autour de nous. Et toutes sortes de choses qui sont un peu à contre-courant, ils sont bibliques quand même. Pour conclure, Pour conclure, il nous arrive de penser que le monde moderne a rejeté la foi et que nous, chrétiens, avançons à contre-courant de notre société. Ben, ce sentiment n'a rien à voir avec le monde moderne. Et de toutes les générations, les chrétiens ont été appelés à ne pas choisir la facilité, mais à la place de choisir les voies que Dieu a tracées. Il pourrait être tentant d'adapter notre foi pour trouver un compromis entre les valeurs portées par la société et celles de la bonne nouvelle de Christ. Paul nous met en garde contre ça. Paul nous met en garde contre cette fausse vérité, vérité adaptée. Le message de Christ ne doit pas être altéré sous peine que nous nous égarions dans notre foi. Citons quelques exemples qui me viennent en tête d'aménagement, de détournement de la vérité biblique. Même sans la foi, je peux être bien vu de Dieu si je suis quelqu'un de bien. Mieux vaut taire que je suis chrétien pour soigner les relations dans mon entourage. Et au final, seule ma foi compte, peu importe si mes actes ne reflètent pas l'enseignement de Jésus-Christ. Il y a une base qui est vraie, mais le reste, c'est faux. Dans ces situations, les encouragements de Paul sont précieux et j'espère que vous repartirez de ce culte avec eux. S'accrocher fermement à la vérité de l'Évangile, garder espoir dans le retour de Christ où tous les chrétiens vivront en paix avec le Père. Priez le Seigneur d'avoir le courage d'être de bons témoins de Christ par nos paroles et par nos actes. Prions.